Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Oui, bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire, celle du mois de septembre 2022. Je peux déjà vous dire que cette rentrée littéraire est très ouverte d'avis d'experts, libraires et éditeurs. Mais qu'il y a aussi dans l'actualité de cette radio les 40 ans d'existence qui sont fêtés du 10 au 24 septembre. Et j'ai été un partenaire, j'étais encore en pleine activité de libraire à la librairie Montbarbon, lorsque j'étais invité à m'associer à cette radio. Ça remonte déjà à quelque temps, voilà. Et j'y ai pris tellement goût que même, soi-disant à la retraite, je continue à partager avec les lecteurs de Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, je continue à partager mes coups de cœur, mes découvertes littéraires. Et pour cette rentrée littéraire, vous allez voir, c'est vraiment très ouvert. Raison pour laquelle j'ai choisi deux thèmes qui vont se succéder. Tout d'abord, trois romans qui mettent en scène des manipulateurs. Oui, il y en a des manipulateurs. Peut-être même au gouvernement. On peut même se demander qui manipule qui. Voilà. Le premier roman s'appelle Arsène Lupin, c'est à l'époque d'Arsène Lupin, et il est surnommé l'Arsène Lupin des Galetas. C'est Philippe Gascard, un grand journaliste, qui s'est penché sur cette vie parue aux éditions du Cerf. Une vie, c'est une longue enquête, marathon on peut dire, sur la vie fantasque de Raoul Sacorotti, un Italien qui s'appelait Raoul Sacorotti et qui est venu s'installer, s'exiler en France. Cambrioleur, surnommé cambrioleur, anard en gants blancs. Voilà, c'est une diffusion Gilles Paris pour moi, que je remercie pour ce gros livre, car c'est un gros livre. Le deuxième roman, Crédit illimité, Nicolas Rey, Au diable vos vers, un éditeur qui signe bien ce qu'il veut éditer, Le diable vos vers, diffusion aussi Gilles Paris. Dans cette fiction, Crédit illimité, il y a une fiction, et d'une ironie féroce et même immorale, Nicolas Rey invente le crime parfait. Son personnage, Diego Lambert, étant en porte-à-faux avec son père. Voilà. Le troisième roman, Quelque chose à te dire, de Carole Fives, Gallimard, est une belle découverte que j'ai faite et que je veux partager avec vous. Un jeu de miroir ou jeu de dupe, Carole Fives s'initie avec ce nouveau roman, un jeu entre Elsa Feuillet, jeune écrivaine admiratrice de l'œuvre de Béatrice Blandy, grande romancière, mais qui a disparu prématurément. Et le mari de celle-ci, eh bien, va entrer en lien avec Elsa Feuillet. Pourquoi ? Eh bien, vous le découvrirez en lisant ce livre qui est une sorte de thriller troublant mais profond. Voilà. Et puis, il y aura une pause musicale avec Marénée, entourée de musiciens talentueux. Marénée, qui est considérée comme la mère du blues. Le blues, elle sera mon cheval de bataille pour cette rentrée littéraire, mais vous l'entendrez un peu après aussi, parce que une biographie vient de paraître, Marénée, la mère du blues, écrite avec émotion par Stéphane Gézovanier, édité par Le Mot et le Reste, pour moi un grand petit éditeur, je vous en parlerai par la suite. Après, il y aura trois livres, trois romans consacrés à l'espace montagne, qui devient mon sujet favori. Je vais parler de trois livres là, mais il y en aura d'autres à venir, et je pense que j'aborderai avec vous ce sujet de la montagne. Le premier de ces romans, qui est le quatrième livre, « Le bord du monde est vertical » de Simon Parcot, étonnant, édité par Le Mot et le Reste, étonnant, vous allez voir. Le cinquième roman, c'est « L'île haute » de Valentine Gobi, chez Actes Sud. Valentine Gobi, que je retrouve avec grand plaisir. Et puis un sixième roman, une découverte que je veux partager absolument avec vous, « On était des loups » de Sandrine Colette, paru chez Jean-Claude Lattès. Donc, je vais commencer par le premier de ces livres, de ces romans. Ce sont des romans, écrits comme des romans. « Arsène Lupin des Galetas » par le journaliste Phil Cazoar, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Une longue enquête, marathon, parce que c'est un gros livre, mené par Phil Cazoar sur la vie multiple, on pourrait dire les vies multiples et rocambolesques qui épousent les chaos du siècle passé, celle de Raoul Sacco-Rotti. Tout un parcours de monte en l'air, aux mille visages venus de Gênes, en Italie, où restèrent sa mère, ses deux frères, ses sœurs, sa mère à qui il va continuer à écrire, et elle répond à ses lettres. Donc il y a une grande tendresse échangée entre le fils exilé et la mère restée sur place. Nous sommes en 1930, mais en 1943, ce qui veut dire qu'il y aura la guerre avec Mussolini qui va prendre le pouvoir en Italie, les fascistes aussi, et apparemment Raoul Sacco-Rotti ne s'entend pas avec les fascistes. Alors il va s'installer à Grenoble et il devient, pour un journaliste du Petit Dauphinois qui s'appelle Roger Louis Lachat, il devient l'Arsène Lupin des Galetas. Les Galetas, c'est un mot peut-être un peu oublié, c'est-à-dire les greniers, les mansardes des immeubles dans laquelle les propriétaires mettent des coffres, des cartons, plein d'objets qui paraissent secondaires ou qui ne sont pas utilisés, et que l'Arsène Lupin de Galetas, qui est un voleur hors pair, rusé, habile, élégant et généreux, eh bien, va remarquer et chiper, soi-disant, pour en redistribuer, il est généreux, il va redistribuer ce qu'il vole aux pauvres. Donc, c'est en douceur qu'il déleste les greniers des bourgeois. Il va même se marier et faire des rencontres quasi irrésistibles qui vont lui être fidèles tout au long de sa longue vie. Il va vivre, mais il y aura des tourments, mais il va vivre assez longtemps. Il va par la suite financer la livraison d'armes aux anarchistes espagnols en lutte contre Franco, parce qu'il y a bien la guerre civile en Espagne, avec les républicains, les communistes d'un côté, et puis les nationalistes Franco de l'autre. Et on sait que malheureusement, c'est Franco qui va l'emporter. On se pose des questions, et cette question en particulier, car lui-même, lorsqu'il s'exprime plus tard, il va s'exprimer, il laisse planer un doute. Ce spécialiste du fric-frac serait-il un idéaliste, anti-fasciste, anarchiste tout simplement, ou un idéologue ou un affabulateur? Voilà, on peut se poser cette question. Voilà pourquoi j'avais dit que le thème c'était « Qui manipule qui ?». Cette enquête vous mène du bas-fond de Gênes aux cimes des Alpes. Donc on va passer près de chez nous pour aller même jusqu'à Genève. Des ruelles de Ménilmontant, donc de Paris, aux Ramblas de Barcelone, en passant bien sûr par Grenoble, là où il a séjourné, et la région où il a séjourné là, plusieurs années. Des cachots, parce qu'en 1943, revenant de Marseille, il sera arrêté, reconnu, arrêté, et mis en prison. Il va bien essayer de se défendre, il va réussir à se défendre, à avoir pas trop de prison, mais on va quand même l'envoyer dans des camps d'internement. Sans oublier, parce qu'il va être éjecté de France pour aller en Italie, et en Italie, il va être mis dans la colonie, parce qu'il a des ennemis qui lui en veulent encore et toujours, en colonie, en confinement, dans les îles Trémiti. Voilà. En 557 pages, oui, comme je vous ai dit, c'était un gros volume, Phil Cazoar refait le chemin qui va de la Belle Époque à la guerre froide et retrouve la trace et la vérité du plus anard des gentlemen cambrioleurs, ainsi que des ouvriers italiens et des aristocrates russes, oui, qui l'ont aimé quand, lorsque je vous dis qu'il a connu plusieurs vies, la dernière partie de sa vie, eh ben, il a rencontré des aristocrates russes. Il va vivre avec elles des beaux moments de vie. Voilà, une très belle aventure romanesque intitulée donc « L'Arsène Lupin des Galetas », Philippe Cazoar aux éditions du Cerf. Crédit illimité de Nicolas Rey au Diable Vauvert est le deuxième roman que je présente. Un roman bien plus court qui met en scène un fils à papa qui va se révolter contre cette emprise que je qualifierais un peu de totalitaire. Ce personnage du roman s'appelle Diego Lambert, il n'a plus le choix, car il est quasiment sur la paille. Moi, je dis, il a perdu son travail, plus d'argent, donc il doit revenir vers son père pour le financer, pour payer la dette. Mais alors, en échange d'une grosse somme d'argent, son père est d'accord, il doit licencier 15 salariés de l'usine agroalimentaire de son père, s'il ne veut pas donc finir sur la paille, et ainsi obtenir de quoi payer ses dettes. Mais rien ne se déroulera comme prévu. Lorsqu'il rencontre ces gens-là et leurs conditions de vie, honnête et méprisable pour les nantis, car ce sont les actionnaires qui ont décidé qu'il fallait licencier 15 personnes, mais ce n'est pas vraiment nécessaire, sauf pour les actionnaires qui veulent avoir encore plus d'argent. Il va donc imaginer une solution irréparable, un meurtre, un crime parfait, en utilisant un bouc émissaire. Parce qu'il a, remarqué que parmi ces personnes, ces salariés, il y en a un qui est plus brutal, qui en veut un peu déjà à son père. Donc il va l'utiliser comme un bouc émissaire. Il va aussi rencontrer l'amour avec la belle Anne Belley, une psychologue qu'il rencontre régulièrement, mais une passion amoureuse va naître entre les deux, Anne Belley et Diego Lambert, qui va s'accentuer même et même devenir fusionnelle. Voilà. Elle va quitter son mari pour vivre avec elle. Et là, bon, je dois le dire, il y a quand même des passages vraiment fusionnels qui peuvent peut-être surprendre quelques familiers de lecture. Même le commissaire Navarro, en demi-teinte, qui accepte quand même la disparition de son père, en utilisant un bouc émissaire comme coupable. Voilà. Donc, un texte plein d'humour et de folie, une tragicomédie immorale, complexe d'Œdipe, une conjuration des imbéciles à la française. Nicolas Rey retire avec brio les masques et faux semblants du monde de l'entreprise. Voilà pour ce livre, ce roman, qui se lit avec beaucoup de plaisir quand même. Crédit illimité, Nicolas Rey au Diable Vauvert. Et je parle du troisième roman. Quelque chose à te dire. Alors oui, pour moi, ça a été une découverte. J'ai aimé le style de Carole Fives qui écrit ce roman, Quelque chose à te dire, qui vient de paraître chez Gallimard. Dans ce genre, il a ma préférence car il a de la profondeur dans ce livre, dont le sujet est quand même aussi le monde de l'écriture et de la littérature. Puisque Elsa Feuillet, l'héroïne de cette histoire, jeune écrivaine, admire l'œuvre de la grande Béatrice Blandy, une grande réussite, disparue prématurément à la suite d'un cancer. Elle a tout lu d'elle et subit son influence, même si ses livres, à elle, à Elsa Feuillet, ne percent pas. On a vu comme ça, dans le milieu de l'édition, des réussites étonnantes, et puis d'autres à côté, qui écrivent pourtant pas mal, mais qui ne percent pas. Et lorsqu'Elsa rencontre le veuf de Béatrice Blandy, le beau Thomas Blandy, producteur, une idylle se noue entre les deux, entre Elsa et Thomas. Fascinée, Elsa va peu à peu se glisser dans la vie de sa romancière fétiche et explorer son somptueux appartement parisien, la salle de bain, sa garde-robe, son parfum, et peu à peu s'immiscer dans sa peau. Et même un jour, elle va commencer à explorer, à rentrer dans le bureau qui lui est interdit, qui est le bureau de Béatrice. La porte est fermée, mais elle va arriver à s'entendre avec la femme de ménage et franchir la porte de ce bureau. Surtout qu'elle entend une conversation discrète entre son éditeur, l'éditeur de Béatrice, et Thomas, qui prétend que non, que son épouse n'écrivait plus en raison de sa maladie, qu'il n'y a aucune note à reprendre. Voilà. Ce qui met la puce à l'oreille d'Elsa, qui va mener son enquête, et sa recherche va bientôt aboutir à quelque chose d'inédit et de fort. Elle va trouver des notes, un carnet, et puis s'en servir pour écrire à son tour par rapport à ce qui est écrit. Mais de qui est-ce ? D'elle, Elsa, ou de Béatrice ? On a vu de telles questions dans le milieu de l'édition, jeu de miroir ou de dupe. Carole Fiff signe ici un beau roman, vraiment beau, troublant, avec une très belle écriture. Et je ne dévoile pas, mais il y a une très belle fin. Voilà. Sur quelque chose à te dire, c'est ce que la grande Béatrice Blandy va dire à son mari. J'ai quelque chose à te dire. Quoi ? Eh bien, vous le saurez en lisant ce très très bon roman, Quelque chose à te dire, Carole Fives, aux éditions Gallimard. Et puis, on fait une pause musicale, comme annoncé. On écoute Marinée, qui est considérée vraiment comme la mère du blues. Je vous la ferai entendre très certainement. J'ai choisi pour commencer une plage qui s'appelle Daddy Goodbye Blues. Il n'y a pas de goodbye, elle reviendra. Voilà, Daddy Goodbye Blues que l'on entend.
Goodbye, Daddy, goodbye. daddy, daddy, please tell me goodbye. If you don't want me, daddy, mama, sure lay down and die. Goodbye. Goodbye, daddy, goodbye. Da, da, da.
Oui, je vous ai fait entendre cette superbe voix de ma Renée. Et là, vous l'avez bien entendu, vous avez... Je chante en anglais, en américain. Hein. Donc vous avez reconnu les mots qu'elle a prononcés. Et puis, elle est très bien entourée par des musiciens vraiment talentueux. Voilà pourquoi j'ai commencé par cette musique... Dédié Goodbye Blues, voilà. Alors, on aborde maintenant les livres consacrés à la montagne. Avec un premier roman étonnant et déjà salué par Clara Arnault, l'autrice de La verticale du fleuve, paru chez Actes Sud, récit qui se déroule au Honduras et que je vous avais présenté juste avant de partir en vacances. Alors ici, Le bord du monde est vertical de Simon Parco, édité par Le Mot et le Reste, nous sommes au cœur de la vallée des glaces, qui est une vallée qui existe bien, dans ce très beau livre, avec une couverture sobre, mais il y a une carte, et cette carte montre très bien où se trouve la vallée des glaces, et voilà le lieu où va se passer cette histoire. Il y a une cordée, donc de deux chiens, Moïra et Zéphyr, une femme Isée, et trois hommes, Gaspard, le plus ancien, le chef, Solal, le jeune Solal, et Vic. Ils affrontent une tempête de neige terrible pour rejoindre le reculoir. Le reculoir, c'est l'ultime hameau avant le bord du monde. Le bord du monde, c'est le titre d'une gigantesque montagne. Le bord du monde, dont nul n'a pu atteindre le sommet. Initialement dépêché pour une mission de routine, transporter du courrier ou des marchandises, l'équipé découvre que son chef, que Gaspard, a un autre dessein. Embrasé par le prêche du père Salomon, le père Salomon, qui est un mystique, abreuvé de brûle-gorge, qui dit connaître le moyen de s'élever jusqu'au sommet de la montagne. Car cette montagne, comme je l'ai dit, est tellement grande, tellement élevée, et puis il y a de la brume au-dessus qu'on ne peut pas voir le sommet. Et donc, Gaspard, qui a déjà... qui connaît bien ce parcours, n'a jamais pu voir le sommet, mais il rêve d'atteindre ce sommet. Et donc, le sermon du père Salomon va vraiment lui donner envie. Et Gaspard, cette montagne inaccessible, Gaspard a décidé de tenter la grande ascension. Fraîchement recruté, le jeune Solal devra suivre son mentor, parce qu'ils partiront les deux, même s'il y a la femme qui voudrait bien participer, mais Gaspard préfère prendre que Solal avec lui. Dans sa quête, et Solal, son mentor, dans sa quête d'absolu, où écrire son propre destin. Voilà, je ne vous dis pas comment les choses vont se dérouler, mais c'est un roman d'altitude qui mêle l'inaltérabilité des légendes de haute montagne, voilà, car il y en a des légendes. Une réflexion intime sur le désir et la mort, parce que oui, la mort peut, il y a un accident et la mort peut arriver, et un réalisme magique que ne renierait pas René Dommal, le grand écrivain René Dommal. Par temps clair, ce qui n'est pas le cas avec toute cette neige et le froid qui fait frémir les fronts, on devrait apercevoir le sentier qui mène à Notre-Dame-des-Neiges. Mais la voir est tout simplement impossible, car la neige est en train de gagner. Chaque flocon qui tombe gomme un peu plus les contours du monde. Il faut donc attendre au refuge que le jour se lève vraiment pour pouvoir tenter l'ascension. Voilà. Simon Parco, écrivain et philosophe, est un grand voyageur aussi. Après tout un parcours, il est maintenant installé dans la vallée sauvage du Vénéon, en Oisans, dans l'Oisans. Voilà pourquoi il nous plonge si bien avec ce roman initiatique dans la montagne et son univers. Alors, comme j'ai dit qu'il était philosophe, en avant de cette histoire, il a trouvé un texte qu'il cite, texte tiré de Ecce Homo de Friedrich Nietzsche. Je vous lis ce texte, donc c'est à côté où il a joint la carte de la vallée des glaces avec le reculoir, avec la ville, là d'où ils viennent. Je disais, voilà, vous verrez là, dans ce beau livre la carte en avant-première avec voilà, forêt de pierre. Comme ça, vous comprendrez mieux le parcours de Gaspard et de Solal pour accéder au sommet de cette montagne, le bord du monde. Alors voilà ce que dit Friedrich Nietzsche dans ce texte-là qui parle justement de hauteur. Qui sait respirer l'air de mes écrits sait que c'est un air des hauteurs, un air vigoureux. Il faut être créé pour cet air, autrement on risque de prendre froid. La glace est proche, la solitude est énorme, mais voyez avec quelle tranquillité tout repose dans la lumière. Voyez comme on respire librement, que de choses on sent au-dessus de soi. Voilà ce superbe texte tiré de Ecce Homo de Friedrich Nietzsche, cité par Simon Parco dans ce très très beau livre, étonnant livre, Le bord du monde est vertical, qui vient de paraître chez Le Mot et le Reste. Merci cet éditeur de nous faire partager de tels miracles d'écriture. Alors, le deuxième livre, le cinquième livre, mais le deuxième livre de Montagne, s'intitule « L'île haute », c'est de Valentine Gobi chez Actes Sud. Que je retrouve, je connaissais Valentine Gobi, mais je n'avais plus rien lu d'aussi important. Un jour d'hiver, avec beaucoup de neige et de brume épaisse, le jeune Vadim, petit Parisien de 12 ans, gamin des Batignolles, inquiet et asthmatique, c'est la raison de ce séjour dans cette montagne est conduit par le train vers un air plus pur. Il ignore tout des gens qui vont l'héberger, quelque part dans un repli des hautes montagnes. Il est transi de fatigue quand, au sortir du wagon, puis du tunnel, l'avalanche a bloqué la voie, donc il a fallu attendre un petit peu. Et puis, donc il sort du wagon, il fout de la neige épaisse et pesante, mais c'est pas dans ceux d'un inconnu qui le précède dans cette marche, qui est venu l'attendre à la gare, avance vers un endroit dont il ne sait rien, ouvre bientôt les yeux sur un décor qui le sidère, parce qu'effectivement, il va y avoir une éclaircie et il va découvrir une chose impensable pour lui, petit Parisien, l'archipel de sommets entre brume et nuages. Et il est sidéré. Il reste un long moment, il ne peut pas retirer son regard de cet ensemble de sommets, âme blottie sur un replat, immensité enivrante qui le rend minuscule. Dans cet archipel de sommets, pour lui, tout va commencer. Nous sommes en 1942-43, donc c'est la guerre. Et on devine, lui il est naïf, mais on devine quand même pourquoi il est venu, on l'a transporté ici, dans ce lieu calme. Il faudra apprendre, surmonter la séparation, en particulier avec sa mère, qui correspond mais qui ne répond pas vraiment à ses lettres. Passer de la stupeur à l'apprivoisement, de l'éblouissement à la connaissance, confier sa vie à d'autres, à ceux qui l'accueillent et qui savent ce qui doit advenir, car lui ne le sait pas. Il va même changer de prénom et s'appeler, pour les gens de cette commune, Vincent Dorcel, au lieu de Vadim. C'est son vrai nom. L'île Haute est le récit initiatique d'une absolue première fois. C'est ça qui est très beau et que l'on découvre. Une découverte impensable de ces montagnes. Et même les habitants ont oublié la beauté de cet ensemble de montagnes perçant à travers brume, nuages, avec une clarté, une lumière. Un somptueux, c'est un l'île Haute, est un somptueux roman paysage qui emplit le regard jusqu'à l'irradier d'humilité et d'humanité. Des images, des perceptions qui nous élèvent vers ces ailleurs bouleversants. Ces montagnes situées à la frontière entre la France, l'Italie et la Suisse. Des montagnes dont la démesure change et libère les hommes. Un très très beau roman, un superbe roman. Et va sauver un enfant, car effectivement, comme la Suisse n'est pas très loin, cet enfant, Vadim, va être sauvé. Voilà. Je vous en dis pas plus, à vous de lire ce très beau livre de Valentine Gobi, L'île Haute, avec une belle couverture, qui vient de paraître chez Actes Sud. Et puis, j'ai un sixième roman aussi, qui est une très grande découverte pour moi. On était des loups, de Sandrine Colette, qui vient de paraître chez Jean-Claude Lattès. Je donne l'explication de ce roman, de ce titre, On était des loups. Tout d'abord, ce roman, c'est un roman avec un personnage, Liam, le narrateur. Donc tout d'abord, dans ce roman, il y a un langage, celui du narrateur, de Liam, qui est un sauvage, qui a quitté sa famille pour vivre dans une Syrie pendant 2 ans, avoir de l'argent. Et puis grâce à un ami Henri, un vieil ami Henri, grand chasseur, il va apprendre le métier de chasse, de chasseur. Donc il va découvrir avec Henri cette vie en pleine montagne. Et il ne veut plus que celle-là, c'est-à-dire la terre qu'il a achetée, la ferme, et puis vivre avec Eva, son épouse, et Haru, son jeune fils, voilà, qu'il attend dès qu'il part à la chasse. Il aime la vie des loups. On était des loups, et les loups étaient des hommes. Ça ne faisait pas de différence, on était le monde. Voilà, mais un jour, donc je vais vous dire ce qui va arriver, le drame qui va arriver. C'est pour ça, dit-il, ce personnage, Liam, c'est pour ça que je vis ici, pour toucher du doigt, du bord du cœur, le territoire sauvage qui survit en moi. Et quand les loups hurlent dans la montagne, je ne suis pas seul. Et c'est vrai que toute la famille, le soir, entend chanter, hurler ou chanter les loups, mais ne sont pas inquiets, ils ne sont pas seuls, parce qu'ils se sentent en compagnie, bien en compagnie de ces loups. Voilà, ce n'est pas donc une chasse aux loups que je vous propose, mais une chasse tout court, voilà, en pleine nature. Alors un soir, malheureusement, quand Liam, le personnage principal, donc avec son langage que je vous ai décrit, enfin un petit peu, eh bien rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser, il devine aussitôt qu'il s'est passé quelque chose. Son petit garçon de 5 ans, Haru, ne l'attend pas devant la maison, comme cela se produit habituellement. Puis il va dans la cour et il découvre les empreintes d'un ours. Alors les ours, c'est dangereux, oui. À côté, sous le corps inerte de sa femme, il trouve son fils vivant. Voilà. Mais alors, est-ce qu'il a été protégé? Oui, sans doute. Parce que le corps inerte de sa femme est couvert de griffes de l'ours. L'ours est mort, mais voilà. Elle est morte et son fils est vivant. Alors il va devoir l'enterrer, cacher à son fils cette mort soudaine. Au milieu de son existence, en pleine nature, il s'effondre. Voilà. Et surtout, peu à peu, Liam a une certitude. Ce monde sauvage n'est pas fait pour un enfant. Il décide surtout que cet enfant est petit, il n'a que 5 ans, 5, 6 ans, c'est petit. Il décide donc de confier son fils à d'autres que lui. Parce que lui est un chasseur, il est adroit dans la chasse, mais il n'est pas adroit pour s'occuper d'un enfant et l'élever, l'éduquer comme le faisait sa femme. Elle prépare donc un voyage au rythme des chevaux, car ce personnage refuse toute modernité, pas de voiture, pas de télévision. Il a 2 gros chevaux qui sont de très très beaux chevaux, adroits, intelligents, résistants. Donc, au rythme des chevaux, ben, il va préparer un long voyage. Passer aussi au bord d'un lac. Sa femme lui avait parlé d'un lac d'un lac mythique. Et donc, il va quand même passer à côté de ce lac mythique. Mais il va passer vers des éléments de sa famille, oncle et tante. Mais eux ne veulent pas. Donc, dans ces profondeurs, nul ne sait ce qui peut advenir. Encore moins un homme fou de rage et de douleur, accompagné d'un enfant terrifié, parce que son petit garçon, il a vu, même s'il a 5 ans, il a quand même une bonne tête, ce Haru. Et il est terrifié parce qu'il a vu l'ours, il a vu... voilà. Ou serait aussi par la suite ce qu'il a fait ou mal fait qui fait que sa mère est morte. Il y aura aussi donc ceux qui vont refuser de prendre cet enfant en charge. Car c'est lui qui est le père d'Haru, le géniteur. À lui de prendre ses responsabilités et donc de le garder avec lui. Plus tard aussi, il va faire une rencontre d'un homme entouré d'enfants. Donc, les enfants à côté, ça paraît attention, danger, parce que ben, vous verrez dans ce très beau roman, On était des loups de Sandrine Colette. Colette, c'est O-E-D-T-E, 2-L-E-D-T-E, qui vient de paraître chez Jean-Claude Lattès. Donc, attention, danger. Le père et le fils deviendront alors complices pour se sortir d'un piège tendu par cet homme entouré d'enfants. Oui, c'est un très beau roman signé Sandrine Colette qui habite dans le Morvan, qui plonge ses lecteurs, son lecteur, au sein d'une nature aussi écrasante qu'indifférente à l'humain. Elle interroge vraiment très bien l'instinct paternel. Voilà, puisque, pour finir, le père et le fils vont parvenir à s'épauler, à s'entendre. Et le prix aussi d'une possible renaissance, ce qui fait que c'est un livre remarquable, une découverte littéraire indispensable, le plus gros coup de cœur de la rentrée. On était des loups, Sandrine Colette, chez Jean-Claude Lattès, à lire absolument. Et je vais arrêter cette émission. J'ai encore d'autres livres à vous présenter, mais... ils sont tellement bien ceux-là que donc je redis Arsène Lupin des Galetades, Philippe Phil Cazoar qui vient de paraître un gros livre sur la vie fantasque de Raoul Sacorotti, cambrioleur à nard en gants blancs aux éditions du Cerf, Crédit Limité Nicolas Rey au Diable Vauvert, Quelque chose à te dire, Carole Five, pour moi un élément incontournable des éditions Gallimard. Et puis ce très très étonnant livre, Le bord du monde, qui est un lieu, une montagne et verticale, Simon Parco. Le mot et le reste, L'île haute, Valentine Gobi, qui vient de paraître chez Actes Sud, qui est un très très bon roman. Et puis je finis par peut-être ce qui est le plus attachant, celui considéré comme le coup de cœur de cette rentrée littéraire. On était des loups, Sandrine Colette, chez Jean-Claude Lattès. Eh bien voilà, je vous dis au mois prochain, si vous voulez bien. Bonne lecture à toutes et à tous. Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire.